Bonjour et bienvenue sur Radio Picasso. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Azam et quatre élèves, Iliana, Doudou, Louisa et Noé, de la classe de première ES du lycée Aragon, qui ont travaillé cette année d'une manière un petit peu singulière autour de la guerre de 14-18. Bonjour Monsieur Azam.
Bonjour.
Bonjour Doudou.
Bonjour.
Et bonjour Louisa.
Bonjour.
Alors, première question, c'est pour plutôt Louisa et Doudou, on va laisser votre professeur de côté. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre classe alors ?
Alors, on est en première ES1, nous sommes une classe de 34 élèves.
Première ES, qu'est-ce que vous avez comme particularité dans votre emploi du temps ou dans vos filières, dans vos matières ? C'est une première quoi ? Essentiellement économique, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On a beaucoup de SES et d'histoire-géo aussi.
Beaucoup d'histoire-géo ?
Bah, moins que la SES, mais plus que les sciences.
Ouais. Combien d'heures d'histoire-géo vous avez ? 5 ?
4.
4 ? D'accord. Vous pouvez me présenter Monsieur Azam avant que je lui demande. Donc vous l'avez 4 heures par semaine, est-ce que vous l'aviez l'année dernière ?
Non.
Non ? Comment il est Monsieur Azam en classe ?
Sympa. Ben, en fait, son cours est un peu animé, du coup ça nous plaît bien. Oui, on s'ennuie jamais avec lui.
D'accord, c'est déjà pas mal, parce que l'ennui à l'école, ça peut être dur. Pareil,
oui.
Louisa ?
Oui.
Bon. Bon, bonjour Monsieur Azam.
Bonjour, je vais leur donner 2 points de plus.
Voilà, c'est pas mal. Au programme de première, il y a 14-18.
Ouais, c'est ça.
C'est ça ? Quel angle ?
Donc, voilà, on doit étudier la Première Guerre mondiale, mais pas nécessairement sous l'angle traditionnel de l'histoire-bataille. Ça, c'est ce qu'ils voient davantage au collège. Et donc, nous, on doit étudier la Première Guerre mondiale, mais sous l'angle de l'expérience combattante. Donc, réfléchir un petit peu à la manière dont les combats de cette guerre ont été vécus par les soldats, mais aussi par les civils.
Ok. Mémoire aussi, ou c'est ça c'est...
Alors, l'aspect mémoire aussi, oui, joue un rôle, puisqu'on doit étudier un petit peu l'impact de la Première Guerre mondiale dans les années 20 et 30, et faire ensuite le lien également avec la Seconde Guerre mondiale. Ben, un exemple, c'est que quand on étudie avec les élèves l'impact de cette guerre, de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre sur les civils, on voit qu'en 1917-1918, il y a des civils dans le nord de la France et en Belgique qui ont subi des bombardements. Et puis des femmes qui ont pu subir des viols de la part de la soldatesque allemande. Et ça nous aide à comprendre pourquoi, au début de la Seconde Guerre mondiale, quand la Belgique et le nord de la France sont envahis par l'Allemagne, par l'armée allemande, il y a un exode massif des populations qui craignent. Donc il y a eu une transmission au sein des familles, des atrocités de la guerre, et donc il y a une crainte que ces violences faites aux civils ne recommencent au début de la Seconde Guerre mondiale, après l'invasion de l'Allemagne lors de la bataille de France.
Quand vos mémoires de collège de 14-18, quand M. Azam vous a dit que vous feriez 14-18, vous avez eu peur que ce soit les batailles, des choses comme ça ? C'est un souvenir de collège que vous aviez, ou vous en rappeliez déjà de 14-18 du collège ou pas ?
Oui, on en a vaguement un peu étudié en quatrième.
Ouais.
Un peu aussi en troisième.
Ouais.
Ouais.
Sans plus, ça vous a pas interpellé qu'ils vous disent que vous alliez travailler surtout
Ça allait peut-être être un peu redondant, mais on n'a pas trop travaillé sur ça.
D'accord. Alors du coup, tu leur as fait apprendre un discours et un extrait de Voyage au bout de la nuit qu'on écoutera tout à l'heure, qui a été enregistré. C'est la première fois que tu fais apprendre quelque chose par cœur, comme ça, un texte un peu patrimonial.
Ouais, c'est la première fois. Ce texte, l'extrait de Voyage au bout de la nuit, ça fait plusieurs années que je le fais étudier aux élèves, et je me suis dit que je l'aime beaucoup ce texte, ce montage, et je me suis dit que ça serait pas mal aussi, puisque je travaille dans notre matière, on travaille aussi sur la mémorisation, et puis je sais aussi qu'ils ont des oraux à la fin de l'année, enfin après les vacances de février en TPE, et donc je trouvais que c'était pas mal aussi de leur faire apprendre. Et en plus, l'extrait du roman, il y a des dialogues, il y a quelque chose. Je trouve que la langue de l'écriture de Céline gagne aussi à être parlée, même si c'est très travaillé du point de vue de l'écrit. Donc oui, c'est la première fois. Pareil pour le discours de l'instituteur Brana.
Alors, du coup, Monsieur Azam, il vous a dit d'un coup, vous devez apprendre par cœur deux textes. C'est comme ça qu'il vous l'a présenté ?
Oui.
Vous avez vu l'intérêt tout de suite de faire ça, ou ça vous a étonné ?
Non, ça m'a étonné, moi.
Ouais. Alors, vous lui avez dit que ça vous étonnait ou vous êtes des bonnes élèves, vous faites d'accord et vous notez le truc, point.
Je crois que je lui ai dit, moi.
Ouais.
Oui, parce que j'apprends pas par cœur d'habitude.
C'était dur le par cœur ou pas alors?
Bah oui, comme j'avais pas l'habitude, oui.
Ouais, et toi, Doudou?
Bah, pas vraiment, parce que d'habitude, j'apprends mes leçons par cœur. Oui, ça m'aide un peu. Je me sens à l'aise quand j'apprends par cœur.
Ça te rassure, en fait?
Oui, ça me rassure.
D'accord. Et après, vous deviez le faire à l'oral devant tous vos camarades?
Oui.
Alors ça, c'est encore plus impressionnant. Oui. Vous faites souvent des oraux devant tous les camarades de classe ou...
Non. Ben non.
Enfin, l'année dernière, quand même, un peu.
Vous aviez fait quoi à l'oral, du coup?
On faisait des exposés en littérature et société.
D'accord. Et là, vous êtes passé comment? Vous n'êtes pas tous passés quand même. On a fait passer que quelques-uns, M. Azam. Si?
Non, quelques groupes, ouais.
Quelques groupes? Et vous en êtes bien sortis?
Je pense, oui.
Ouais.
Oui? Oui,
moi, je ne lui ai pas demandé avant.
Oui,
Doudou?
Oui.
Si, moi, je dirais qu'on s'en est bien sortis.
Ouais.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous a appris, ce petit exercice inhabituel, alors qui était peut-être plus habituel quand on était en fait à l'école primaire, mais plus inhabituel au lycée, là, d'apprendre un texte par cœur qui ne soit pas de soi et de le réciter?
Déjà, on l'apprend par cœur et on doit passer aussi devant toute la classe. Du coup, ça change un peu parce que d'habitude, quand on apprend par cœur, après, c'est pour faire le contrôle. Et là, on a appris par cœur après pour passer devant toute la classe et réciter. C'était pas la même chose. Ça change un peu.
C'était dur, Louisa, dans toute la classe?
Plutôt la honte, mais après, après, ça va.
Bon, comment ils s'en sont sortis, du coup, Monsieur Azam?
Ils s'en sont très bien sortis. En fait, ils travaillaient, je les ai quand même mis par équipe, parce que les textes sont assez longs, puis ils n'avaient pas beaucoup de temps pour le faire. Donc, je les ai répartis par équipe, je ne sais pas, de 3, 4, 5. Et on a fait une séance où, en équipe, ils se sont répartis des passages à apprendre, les dialogues. Puis après, ils avaient le week-end pour mémoriser. Et moi, j'ai été étonné, effectivement, de voir certains élèves qui ne prennent pas beaucoup la parole en classe. Donc je m'étais dit, oula, ça va être un peu rude. Et puis, certains élèves m'ont vraiment étonné. Ils ont été à l'aise en entrant, finalement, dans la peau du personnage. Soit de l'instituteur, soit des différents personnages de l'extrait de Voyage au bout de la nuit.
Le fait que ce ne soit pas un texte à vous, est-ce que c'est plus facile à dire, finalement? Ce que dit un peu M. Azam, là, que le fait que ce soit des mots de quelqu'un d'autre plutôt qu'un exposé que vous avez écrit vous-même, est-ce que c'est plus facile à dire à l'oral?
Non, pas forcément.
Pas forcément?
Non, non.
Non, Doudou non plus?
Bah, pour moi, ça dépend. Il y a des choses... Enfin, quand tu comprends vraiment le sens du texte, c'est plus facile à apprendre et plus facile à interpréter devant les autres.
Monsieur Azam, il n'est pas prof de français, mais il doit avoir une grande sensibilité littéraire. Est-ce que il vous a parlé un peu de la manière d'écrire de Louis Ferdinand Céline ou pas? Ah, vous pouvez le dénoncer, c'est pas grave s'il l'a pas fait. Hein. S'il l'a pas fait, c'est pas très grave. Non, vous vous rappelez pas?
Je me rappelle même plus.
Non. Parce que
si, je crois.
Si, ouais, parce oui, que oui. Dans la manière dont on a enregistré tout à l'heure le texte, il y a des mots qui étaient difficiles, il y a des passages qui étaient un peu durs, des fois avec des consonnes qui pouvaient racler un peu. Il y avait comme ça, presque, on entendait presque des crissements, des allitérations en R, des choses comme ça. Et ça, c'est difficile à faire du coup à l'oral sur le discours.
Pas plus que ça.
Pas plus que ça. Bah, écoutez, très bien, c'est une bonne chose. Est-ce que, monsieur Azam, vous avez évoqué du coup la postérité de Céline?
Oui.
Et notamment les débats qui agitent cette année le monde de l'édition. Est-ce que du coup c'est un sujet qui est venu? Et son antisémitisme aussi.
Ouais. Alors c'est vrai que c'est venu un petit peu après, quelques semaines après qu'on l'ait étudié. Mais quand on a étudié Céline, je leur ai dit hein, que c'était un immense écrivain, mais qu'effectivement il avait ensuite dans ses écrits... bifurqué vers un antisémitisme scandaleux, radical. Et je leur ai dit aussi, mais c'est vrai que c'est venu après, le fait qu'il y a eu la polémique autour de la volonté des éditions Gallimard de rééditer certains de ses ouvrages antisémites. Donc, je l'ai évoqué comme ça, mais on n'y est pas revenu à mon place.
Est-ce que ça a surpris les élèves ou il y a eu des questions là-dessus ou...
J'ai pas eu...
Non. Doudou, Louisa, on va faire un premier arrêt, puis après on aura Noé et Iliana. Est-ce que vous avez une question à poser à M. Azam avant qu'on s'arrête deux minutes? Quelque chose que vous n'auriez jamais osé lui demander en cours, ou sur le sujet que vous avez étudié, ou sur son enseignement, ou sur quoi que ce soit?
Pas mon âge, s'il vous plaît.
À part son âge, bien sûr. Non, rien de particulier. Vous ne le regretterez pas. Hein. C'est la seule fois où il sera obligé de répondre. Bon, alors on va faire une première pause, Monsieur Azam. Alors, tu as amené deux morceaux, pardon. Qui est un morceau de Guillaume Depardieu et de Juliette. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu avant qu'on l'écoute?
Oui. Donc, Juliette, c'est une chanteuse française qui n'est pas très, très connue, mais qui écrit des textes très, très intéressants. Et donc, elle a eu l'idée d'écrire cette lettre. En fait, ça raconte l'histoire d'une femme assez âgée qui retrouve une lettre d'un de ses amants, et elle se souvient plus qui c'était exactement, et on comprend que cet amant a été soldat pendant la Première Guerre mondiale. Et donc elle chante ce texte en duo avec l'acteur Guillaume Depardieu.
Allez, on écoute Juliette et Guillaume Depardieu.
Mon amour, ma bien-aimée, me voici trop loin de toi. Comment survivre éloigné de me l'avoir envoyé. Si tu savais quel ennui, loin de nos jeux amoureux.
Est-ce André ou est-ce Henri? Est-ce Paul aux si beaux yeux?
Rien ne distrait la folie qui m'entoure, mais rien ne peut détourner mon cœur épris.
Oh non, ça ne peut être lui.
Mon amour, mon feu, ma joie, je reviendrai, sois-en sûr.
Vrai, c'est la première fois que je vois cette écriture.
Ton portrait posé sur moi me protège et me rassure.
Cette lettre entre mes doigts serait-elle une imposture?
Oui, l'enfer est de ce monde, mais le pire est de compter ces heures, ces jours, ces secondes qui nous tiennent séparés.
J'ai beau chercher dans la ronde de mes amoureux passés, quelle amnésie profonde, cet amant-là s'est noyé.
Mon amour, ma toute belle, je t'aime et je t'aime tant.
Il n'y a rien d'éternel, rien qui ne résiste au temps.
Un baiser sur ta prunelle, tout autant.
Rien qui ne résiste au temps, et la mémoire est cruelle.
Mais adieu ma vie, mon cœur, il faut bien que je m'en aille. On m'appelle, il est 6 heures. À demain, vaille que vaille. À moins que ton artilleur n'est pour seule funéraille que l'étranger et la peur, le vacarme et la mitraille.
Certitude affirmée d'une simple signature.
d'aventure. Au front, je devais tomber. Je voudrais que tu me jures de ne jamais oublier.
Je voudrais que tu me jures de ne jamais m'oublier.
Extrait du roman de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit.
Nos Allemands accroupis au fin bout de la route venaient justement de changer d'instrument. C'était la mitrailleuse qu'ils poursuivaient à présent leur sottise. Ils en craquaient comme de gros paquets d'allumettes et tout autour de nous venaient voler des essaims de balles rageuses, pointueuses comme des guêpes. L'homme arriva tout de même à sortir de sa bouche quelque chose d'articulé. « Le maréchal des logis Barousse vient d'être tué, mon colonel, » qu'il dit tout d'un trait.
« Et alors ?»
Il a été tué en allant chercher le fourgon à pain sur la route des étrapes, mon colonel.
Et alors?
Il a été éclaté par un obus.
Et alors, nom de Dieu?
Et voilà, mon colonel.
C'est tout?
Oui, c'est tout, mon colonel.
Et le pain?
Ce fut la fin de ce dialogue, parce que je me souviens bien qu'il a eu le temps de dire tout juste. Et le pain? Et puis ce fut tout. Après ça, rien que du feu et du bruit avec. Mais alors, un de ces bruits comme on ne croirait jamais qu'il en existe. Tout de suite après ça, j'ai pensé au maréchal des logis Barousse, qui venait d'éclater comme l'autre nous l'avait appris. C'était une bonne nouvelle. Tant mieux que je pensais tout de suite ainsi. C'est une bien grande charogne en moins dans le régiment. Il avait voulu me faire passer au conseil pour une boîte de conserve. Chacun sa guerre, que je me dis. De ce côté-là, il faut en convenir, de temps en temps, elle avait l'air de servir à quelque chose, la guerre. Quant au colonel, lui, je ne lui voulais pas de mal. Lui pourtant aussi, il était mort. Je ne le vis plus, tout d'abord. C'est qu'il avait été déporté sur le talus, allongé sur le flanc par l'explosion et projeté jusque dans les bras du cavalier à pied, le messager, fini lui aussi. Ils s'embrassaient tous les deux, pour le moment et pour toujours, mais le cavalier n'avait plus sa tête, rien qu'une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glou-glou comme de la confiture dans la marmite. Quelque temps après, le narrateur, blessé, se retrouve en convalescence à Paris. Pour être bien vu et considéré, il a fallu se dépêcher d'art de devenir bien copain avec les civils, parce que, à l'arrière, il devenait, à mesure que la guerre avançait, de plus en plus vicieux. Tout de suite, j'ai compris ça en rentrant à Paris. Et aussi que les femmes avaient le feu au derrière, et les vieux des gueules grandes comme ça, et les mains partout, au cul, aux poches. Pendant des funérailles soignées, on est bien triste aussi, mais on pense quand même à l'héritage, aux vacances prochaines, à la veuve qui est mignonne et qui a du tempérament, dit-on. Et à vivre encore, soi-même, par contraste, bien longtemps, à ne crever jamais peut-être, qui sait. Quand on suit ainsi l'enterrement, tous les gens vous envoient des grands coups de chapeau, ça fait plaisir. C'est le moment alors de bien se tenir, d'avoir l'air convenable, de ne pas rigoler tout haut, de se réjouir seulement en dedans, c'est permis, tout est permis en dedans. Un peu plus tard, après avoir été guéri de ses blessures, le narrateur est placé en observation pour troubles psychiques. Son amie américaine, l'infirmière Lola, vient lui rendre visite.
Est-ce vrai que vous soyez réellement devenu fou, Ferdinand?
Je le suis. On ne soigne pas la peur, Lola.
Vous avez donc peur tant que ça?
Et plus encore, Lola. Si peur, voyez-vous que si je meurs de ma mort à moi, plus tard, je ne veux surtout pas qu'on me brûle. Je voudrais qu'on me laisse en terre, pourrir au cimetière, tranquillement, là, prête à revivre peut-être. Sait-on jamais.
Oh, vous êtes donc tout à fait lâche, Ferdinand. Vous êtes répugnant comme un rat.
Oui, tout à fait lâche, Lola. Je refuse la guerre et tout ce qu'il y a dedans. Je ne la déplore pas, moi. Je ne me résigne pas, moi. Je ne pleurniche pas dessus, moi. Je la refuse tout net. Avec tous les hommes qu'elle contient, je ne veux rien avoir à faire avec eux, avec elle. Serait-il 995 millions et moi tout seul? C'est eux qui ont tort. Lola, et c'est moi qui ai raison, parce que je suis le seul à savoir ce que je veux. Je ne veux plus mourir.
Mais c'est impossible de refuser la guerre, Ferdinand. Il n'y a que les fous et les lâches qui refusent la guerre quand leur patrie est en danger.
Alors vive les fous et les lâches. Vous souvenez-vous d'un seul nom, par exemple, Lola, d'un de ces soldats tués pendant la guerre de 100 ans? Avez-vous jamais cherché à en connaître un seul de ces noms? Non, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais cherché? ils vous sont aussi anonymes, indifférents et plus inconnus que le dernier atome de ce presse-papier devant vous, que votre crotte d'humain. Voyez-vous bien donc qu'ils sont morts pour rien en Lola, pour absolument rien du tout, ces crétins. Je vous l'affirme, la preuve est faite, il n'y a que la vie qui compte.
Monsieur Brana, ancien combattant invalide, directeur d'école à Bayonne, s'adresse à ses élèves venus lui adresser leurs compliments lors de sa remise de la Légion d'honneur le 15 août 1936. Tout récemment, dans un groupe de jeunes gens qui s'étaient réunis pour m'adresser des compliments, je disais « Le héros est mort, l'invalide seul demeure. Voyez surtout en moi un homme qui n'a pu parcourir 500 mètres à pied depuis l'âge de 23 ans. Ne regardez jamais la guerre à travers cette atmosphère légendaire et romanesque tissée de galons et de décorations. Considérez-la avec vos yeux les plus réalistes et vous ne verrez que ventre ouvert, figure en bouillie, membres déchiquetés, vos mamans qui pleurent, vos fiancés qui pleurent, des orphelins qui réclament leur père. J'aurais pu ajouter autre chose et ceci m'amène à vous faire un aveu qui m'en coûte et que peu de combattants, faute sans doute de savoir lire en eux-mêmes, se hasardent à articuler. La guerre a fait de nous non seulement des cadavres, des impotents, des aveugles. Elle a aussi, au milieu de belles actions, de sacrifices et d'abnégation, réveillé en nous et parfois porté au paroxysme d'antiques instincts de cruauté et de barbarie. Il m'est arrivé, et c'est ici que se place mon aveu, à moi qui n'avais jamais appliqué un coup de poing à quiconque, à moi qui ai horreur du désordre et de la brutalité, de prendre plaisir à tuer. Lorsque, au cours d'un coup de main, nous rampions vers l'ennemi, la grenade au poing, le couteau entre les dents, comme des escarpes, la peur nous tenait aux entrailles, et cependant, une force inéluctable nous poussait en avant. Surprendre l'ennemi dans sa tranchée, sauter sur lui, jouir de l'effarement de l'homme qui ne croit pas au diable et qui pourtant le voit tout à coup tonner sur ses épaules. Cette minute barbare, cette minute atroce, avait pour nous une saveur unique, un attrait morbide, comme chez ces malheureux qui, usant de stupéfiants, mesurent l'étendue du risque, mais ne peuvent se retenir de reprendre du poison. À l'issue de la guerre, de retour dans mon village, dans mon joli village basque, et ici je rougis à l'idée de vous avouer cette abominable déformation intellectuelle, mais je veux être sincère jusqu'au bout. C'est avec des yeux de guerrier que je voyais nos ravissants paysages couverts de fleurs et de verdure. Ici, sur cette crête, un magnifique emplacement pour un groupe de combat. Là, un cheminement admirable pour surprendre l'ennemi. Plus loin, dans cet éperon, une position idéale pour une mitrailleuse. Ah, les belles vagues de tirailleurs ennemis qu'elle coucherait. Partout, dans les cadres les plus poétiques, les plus reposants, l'obsession du combat, l'obsession du meurtre, l'obsession de la mort. C'est cette défloraison de l'âme que j'ai pardonné le moins facilement à la guerre. Discours publié dans Cahiers de l'Union fédérale, Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants et victimes de guerre. 15 août 1936.
Alors, de retour avec M. Azam, professeur d'histoire géo au lycée Aragon, qui était venu aujourd'hui avec 4 élèves. Et là, on a quitté Doudou et Louisa, et c'est Noé et Iliana qui sont venus nous rejoindre. Bonjour Noé.
Bonjour.
Bonjour Iliana.
Bonjour.
Donc, on vient d'entendre la lecture que vous avez faite de Voyage au bout de la nuit et du texte de M. Brana, maire de Bayonne. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces textes et de leur contenu ?
Personnellement, je trouve que c'est assez intéressant d'étudier ces textes maintenant, plus de 100 ans après la guerre, parce qu'ils donnent une image de ce qu'ont pu ressentir des gens qu'on ne connaîtra jamais et des expériences qui, je l'espère, ne pourront jamais être endurées par quiconque. Mais du coup, ça nous permet de pouvoir comprendre ce qui a pu se passer pour eux sur le champ de bataille et après le champ de bataille et le traumatisme de Brana et la violence des combats, l'entraide, mais aussi les querelles à l'intérieur des troupes, etc.
Alors, Iliana, c'est toi qui as lu du coup le texte de Brana. Tu imagines comme ça un homme rentrer dans son pays et se mettre à regarder les collines en imaginant à quel endroit pourraient se trouver les mitrailleuses ou les bastions ou les choses comme ça.
Alors, c'est difficile d'imaginer ça, car on n'a pas vécu... On n'a pas vécu et enduré leur souffrance.
Mais c'est vrai que les apprendre, ça nous a donné une idée de ce qu'ils avaient pu endurer pendant la guerre et de ce qu'ils avaient pu ressentir.
Est-ce que quand tu dis « je », du coup,
oui,
pendant le texte, c'est une manière d'identification, du coup ? Quand tu as le « je » de l'auteur, M. Branade, il y a 70 ans, quand tu te l'appropries, ce « je », est-ce que tu t'identifies à lui quand tu le lis, le texte ? Ou tu gardes une distance parce que tu sais qu'une expérience que tu n'as pas vécue.
Une certaine distance.
Ouais, tu gardes une certaine distance. Quel regard vous aviez sur 14-18 avant de travailler là-dessus en seconde, voilà, en première quand vous êtes arrivé, quand il vous a dit Monsieur Azam, on va faire 14-18, vous vous attendiez à faire quoi ?
En troisième, on avait surtout étudié les batailles. On n'avait pas beaucoup approfondi sur la souffrance qu'ils avaient pu endurer et qu'ils avaient pu ressentir. Donc on a approfondi ça pendant les cours de seconde et de première.
Mieux ou moins bien, Noé, du coup, complémentaire ou
Oui, complémentaire, parce que personnellement, j'avais toujours été un petit peu, je dirais pas bercé, mais on m'avait toujours raconté cette histoire de la guerre avec des grandes offensives, des batailles. Et là, on voyait vraiment que c'était pas seulement des décisions militaires comme on avait vu en troisième. Et ça ne se chiffrait pas qu'en millions de morts, mais c'était vraiment... les conditions sur le terrain et le fait que c'est des hommes qui se battent et c'est pas des chiffres.
Est-ce qu'il y a une différence, Monsieur Azam, quand on fait une histoire plus émotionnelle, parce que là on travaille sur la mémoire, sur l'émotion des gens par rapport aux élèves, alors qu'avant c'est une histoire plus froide qu'on avait peut-être en France il y a seulement 20 ans, hein, 15-20 ans. Est-ce que ça change avec les élèves du coup ?
Alors, est-ce que ça change ? Moi, je pense que ça peut changer. Ça peut. On est dans une histoire, moins froide, moins. Alors, il faut. Enfin, le souci, il faut que ça garde quand même un fond scientifique, parce qu'on peut pas enseigner l'histoire uniquement sur l'émotion. Et donc, le fond scientifique. Moi, j'ai essayé de leur donner en évoquant l'historiographie et en leur disant, ben voilà, on a cet angle-là d'étude de la Première Guerre mondiale parce qu'il y a des travaux de chercheurs qui ont été réalisés justement ces 20 dernières années. Ça me permet d'ailleurs de montrer aux élèves que l'histoire, c'est une science humaine et vivante. Et comme n'importe quelle science, ben, elle évolue et elle évolue grâce aux travaux des chercheurs. Donc il y a un fond scientifique à donner, j'espère leur avoir donné en ayant évoqué différentes écoles d'interprétation de l'expérience combattante. Mais effectivement, le texte de Branat, quand cet instituteur qui deviendra ensuite maire de Bayonne dit à la première personne ce qu'il a pu ressentir et comment son âme a pu être déflorée et perdre son innocence, entre guillemets, avec cette Première Guerre mondiale, je pense que c'est aussi une manière d'impliquer davantage les élèves dans cette histoire.
Quel regard vous portez sur la matière historique ? Quand on entend parler des jeunes, souvent, surtout ceux d'aujourd'hui, encore plus qu'avant, on dit qu'ils vivent dans un présent absolu, qu'ils sont connectés tout le temps, qu'ils sont incapables de se concentrer, qu'ils ont du mal à avoir un recul sur les événements du passé. Chose que quand on est enseignant, on ne pense pas du tout, hein, Monsieur Azam, mais qu'on entend parfois à droite à gauche dans les journaux et autres. Alors, quelle approche vous avez, vous, de la matière, l'histoire ? Ça vous paraît étrange de faire de l'histoire ou
Pour moi, l'histoire, c'est une matière importante. C'est intéressant de connaître les faits passés pour en apprendre plus.
Ouais, toi, Noé ?
C'est primordial, à mon avis, de faire de l'histoire parce que si on n'étudie pas les erreurs qui ont été faites et aussi les réussites du passé, on ne peut pas continuer sans connaître nos bases à développer une société qui soit... correcte et intelligente.
Alors, la société se trompe un peu alors quand elle vous juge un peu léger.
Oui, je pense que on se base souvent sur les images qu'on a d'une minorité de personnes, par exemple, qui se désintéressent de l'histoire, mais le fait que on soit connecté en permanence, ça ne veut pas forcément dire déjà qu'on se désintéresse du reste de la vie. D'abord parce qu'on peut aller chercher des informations beaucoup plus facilement, mais aussi on s'intéresse peut-être encore plus au passé, puisque on ne regarde peut-être plus assez ce qui se passe autour de nous, et du coup on se plonge dans ce qu'on nous raconte sur Internet, sur les réseaux sociaux, et au final on est peut-être de plus en plus immergé dans le monde entier plutôt que sur l'instant présent.
Il y en a, du coup, à l'époque d'Internet, de la totale connexion, de tout le savoir disponible dans une poche, est-ce que le professeur d'histoire géo, il est aussi utile qu'avant ? Parce que finalement, tout ce qu'il sait, on peut le trouver ailleurs, non, Monsieur Azam ?
Pour moi, oui.
Pourquoi, alors, du coup ?
Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui prendraient la peine de rechercher les informations. Et le professeur, l'école est obligatoire, donc ça permet à plus de personnes d'avoir accès à ces informations.
Est-ce que c'est plus dur, hein, Monsieur Azam, aujourd'hui, d'enseigner l'histoire géo avec des gens qui ont accès à toutes les connaissances ?
Non, moi, je ne trouve pas que ce soit plus difficile. C'est à nous à leur donner des bases de méthodes pour effectivement faire très attention aux sources dans lesquelles ils vont aller puiser pour effectivement à mieux approfondir, mieux connaître tel ou tel élément. Mais du coup, moi, je trouve pas que ce soit plus difficile. L'autre jour, on avait étudié avec les élèves de cette classe les régimes totalitaires. Je leur ai montré quelques petits extraits de différents documentaires. Et une élève est venue me voir une semaine après en me disant « Mais monsieur, je suis allé voir le documentaire en entier. Est-ce que vous pourrez me donner d'autres liens ?» Donc, au contraire, moi, je trouve que ben, voilà, le progrès, comme on dit, le progrès technique et le fait d'avoir accès à plein de sources comme ça, c'est une richesse. Après, à nous de dire aux élèves, effectivement, sourcez vos documents. Demandez-vous qui a produit ce document. Et puis, comment il est fait ? J'essaie toujours de leur dire, même quand on regarde... J'ai fait un jeu de mots foireux. Hein, je dis... qu'est-ce que je dis, le documenteur, hein, le document, le document, voilà, le document. Donc faites attention, ça ne veut pas dire qu'on va devenir obsédé par le complotisme et qu'il faut dire que tout ce qui nous est proposé est absolument faux. Mais il faut toujours se demander qui a produit ce document, dans quel contexte, et puis comment est présentée la connaissance.
Est-ce que, Monsieur Azam, ces élèves vont faire d'autres projets ou d'autres choses pendant les 4 mois qui viennent que leurs cours habituels ?
Oui. Alors, on part à une semaine après les vacances de février, là. On part 4 jours à Paris pour étudier les lieux de la résistance et de la refondation de la République. On va recevoir le vendredi 2 mars... le député de Givors et ses assistants parlementaires qui vont nous présenter justement l'Assemblée nationale, donc un élément important des institutions de la Ve République. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va travailler aussi à la préparation d'entretien pour une émission de télé à Saint-Étienne avec le thème des passeurs de mémoire. Et on travaille en collaboration avec un metteur en scène, Dominique Lurcel, qui a travaillé sur justement différents textes, dont ceux de Primo Levi, de Christopher Browning ou d'autres.
D'accord, bah super. Vous pourrez nous ramener des petites choses radiophoniques si on vous montre comment marche le magnéto de reportage de vos aventures ?
Oui.
Ouais. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard, Noé ? Ou quelles études, en tout cas ? Ça peut s'arrêter là.
J'aimerais bien faire des études de sciences politiques. D'ailleurs, M. Azam m'a vachement aidé parce qu'il est assez au courant d'un partenariat avec l'IUP. C'est lui qui s'en occupe. Pour après faire de la politique.
J'aimerais faire des études de droit, dans la possibilité peut-être de devenir avocate.
C'est des gens ambitieux, c'est parfait, monsieur.
Oui, c'est très bien.
Hein. Bravo.
Je suis leur professeur principal et moi je me régale à travailler avec eux un petit peu sur l'orientation.
Est-ce que vous voulez poser une question à votre professeur avant qu'on le libère ? Ah, Noé, il veut.
Non, c'est assez...
Si, Noé, il n'y a pas de souci.
On coupera si c'est un problème, parce qu'on n'est pas en direct, donc c'est pas grave.
Non, mais c'est assez simple comme question, mais pourquoi vous avez voulu être prof d'histoire et pas prof d'autre chose ou...
Ah ouais. Pourquoi j'ai voulu être prof d'histoire ? Parce qu'au collège, j'ai eu un professeur qui m'avait vraiment intéressé à cette matière. J'ai toujours été intéressé par l'histoire. Et puis au lycée, en première, j'étais en première S et je m'ennuyais dans beaucoup de cours. Et j'ai eu un professeur, comme moi, j'ai trouvé exceptionnel, qui ne plaisait pas forcément à tous les camarades de la classe. Il était antipédagogique au possible, il venait s'asseoir, il s'asseyait. Il ne se levait pas de l'heure, il avait quelques notes sous les yeux, et pendant une heure, il parlait, mais il était brillant, il avait une très très grande culture, et il nous présentait l'histoire de façon aussi très, avec beaucoup d'humour. Et du coup, ça m'a emballé, et donc je me suis dit, j'aimerais bien faire ça. Donc oui, ça me tient depuis longtemps, cette vocation. Voilà.
Monsieur Azam, nous arrivons à la fin de l'émission. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se dise au revoir ?
Non, mais moi, je suis ravi d'être venu avec ces élèves. Et voilà, je me régale de travailler avec eux.
Voilà. Eh bien, merci, monsieur Azam. Merci, Doudou, Iliana, Louisa et Noé. Merci à David, à la technique. Et à bientôt sur Radio Picasso.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu aux ciseaux. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. Que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puretins. Tous les camarades sont en terre et là, pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.